la semaine dernière, j'ai demandé à Michael de distribuer les feuilles. La semaine passée, on a regardé un mot, un thème. On a voulu étudier un thème dans 2 Pierre. C'était celui de la connaissance. Grandir dans la connaissance, croître dans la connaissance et ajouter à cette connaissance de Dieu, à la foi, la connaissance, la vertu, etc. On avait regardé différents thèmes sur la connaissance de Dieu. Et ce soir, on va reprendre un autre mot, un autre thème. Ah, oh, c'est Naomi qui l'aide. C'est le fun. Quel adon! on va regarder un autre thème qui est celui de la prophétie, qui est celui de la parole, des écritures et de la vraie prophétie, puis de la fausse prophétie, les vrais prophètes, les faux prophètes. On est dans 2 Pierre. Pierre a écrit sa lettre particulièrement parce que il y avait de l'opposition de la part des gens à l'extérieur de l'Église. Alors, beaucoup de 1 Pierre, il nous dit, regarde à Jésus, regarde à son modèle, à son témoignage, à sa souffrance, et puis prends pour modèle ça, puis sois courageux, toi, quand tu sors de la communauté chrétienne, puis que tu vas dans le monde, à proclamer ta foi, puis à supporter l'opposition. Beaucoup, c'est dans 1 Pierre. Dans 2 Pierre, par exemple, les problèmes, c'est pas juste à l'extérieur, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, il y a aussi l'enseignement de la parole de Dieu, et il y aura aussi des gens qui enseignent de fausses histoires, de faux prophètes. Et il y a un combat, il y a une lutte aussi parmi nous pour garder la foi pure, claire, sans hérésie. Comment on fait ça? On va regarder 2 Pierre de cette manière-là. Puis on va faire comme on a fait la semaine passée. Comme j'ai dit, moi j'ai ma feuille pleine, mais la vôtre est vide. Alors, non, je ne l'ai pas envoyée, c'est le bon affaire. Mais c'est ça, le message du matin, il est souvent envoyé sur le web le samedi soir ou le dimanche matin vers 8h. Puis, je sais qu'il y a une sœur qui l'imprime avant de venir à l'église. Elle dit « Je suis dans mes notes pour savoir si je suis ton message comme faux. » Mais c'est bien. Mais c'est comme je dis, moi je l'ai pleine, mais on va essayer de le remplir ensemble, de faire l'étude ensemble. En réalité, c'est mon désir. Mon désir ce soir, c'est pas vraiment de prêcher, mais qu'on regarde ensemble un thème dans 2 Pierre, le thème de la prophétie. Et quand on va commencer à regarder les mots, on va peut-être limiter l'espace. On a pris un peu de temps sur le premier chapitre à prêcher la semaine dernière. Une foi, qu'est-ce qu'on avait reçu en Dieu dans son salut. Et à cause de ce qu'on avait reçu, on était appelé à mettre tous nos efforts pour joindre à la foi différentes vertus. Parce que quand on va avoir établi ces vertus-là dans notre vie, on sera pas oisif, on sera pas sans fruits, mais on va voir clair, on va avoir une vie pleine, abondante. Puis en plus, quand le ciel va nous arriver, on va avoir le royaume de Dieu nous est dit, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Grandissez alors dans la connaissance. C'était notre thème. Ce soir, on va peut-être commencer au chapitre 1, verset 12, mais j'aimerais qu'on fasse la même chose, qu'on lise le chapitre 1 et après ça 2 et 3, et qu'on retire, vous preniez note des notions de tout ce qui a à faire avec la prophétie, les prophètes, la prophétie, les docteurs, la vérité, la parole, les promesses, les écritures, tout ce qui a à faire avec le message de Dieu, la prophétie. Ça va? Et on va commencer par faire une étude. On va regarder les mots, on va les observer, on va voir qu'est-ce qu'ils disent dans leur verset. Après ça, on va se poser des questions, on va essayer d'interpréter. Ce soir, on va se poser deux questions d'interprétation. Quelle est la caractéristique de la prophétie divine? Puis puisqu'on a juste une demi-heure, 40 minutes, ben là, on va juste regarder 1:19 à 21. On va essayer de comprendre ça, les caractéristiques positives de la prophétie divine. Puis après ça, on va regarder dans chapitre 2 les caractéristiques des faux prophètes. Qu'est-ce qui les caractérise? Et on va pouvoir tirer des applications de ça. Ça va? Ça, c'est notre travail pour ce soir. Puis on va commencer par demander la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci encore pour... Le privilège que l'on a d'ouvrir ta parole, on a ta parole maintenant, on peut avoir ta volonté, on peut entendre ta voix. Et Seigneur, on veut te prier qu'encore ta parole communique à nos cœurs les vérités que tu as besoin, que tu voudrais que nous assimilions, que tu voudrais que nous mettions en pratique dans nos vies. Alors Seigneur, encore, parle-nous, tes serviteurs t'écoutent et on te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. OK. Alors, j'aimerais avoir un lecteur ce soir qui va lire 1:12 à 21. Oui, Daniel. Et les autres, on peut lire dans notre Bible. Si on lit dans la Nouvelle Édition de Genève, on va tous lire le même texte. Mais si vous avez une Bible sommaire ou un autre, c'est pas catastrophique. Vas-y, 1:12 à 21, tout le chapitre 1. Affermi dans la vérité présente. Vérité, c'est un mot. J'en donne juste un pour commencer. OK, merci. Observons d'abord les mots. Les mots qui ont affaire avec prophétie, parole, vérité, promesse, écriture, tout ce qui a affaire avec le message de Dieu. Est-ce que vous avez trouvé, où est-ce que vous trouvez ça? On va juste observer les mots, voir qu'est-ce que ça dit d'abord. Quel verset d'abord? 12. Pierre veut prendre soin que nous soyons affermi dans la vérité. On comprend ça. Où est-ce qu'on peut être affermi? Par quoi est-ce qu'on peut être affermi? Par la vérité. Synonyme, parole, écriture, mais c'est la vérité qui va nous donner l'affermissement. Est-ce qu'on a d'autres... est-ce qu'on a le contraire de la vérité là-dedans qui nous donneront pas d'affermissement? Je regarde au verset 16, un mot qui est un peu contraire à la vérité. Des fables, est-ce que ça l'affermit, ça? OK, on a besoin d'être affermi dans la vérité, et c'est pas des histoires racontées là, qu'on croit, c'est la vérité, c'est pas des fables. Dans le premier chapitre, une autre section particulière sur la notion de prophétie. Quel verset vous voyez ces mots-là? verset 19. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que l'on apprend d'abord? Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne apparaître, le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Il nous parle de quoi ici? La parole prophétique. Et qu'est-ce qu'il nous dit au sujet de la parole prophétique? Oui, on fait bien d'y prêter attention. Et comparé, si on avait vu juste avant, à l'expérience de Pierre, là, qui avait vu Jésus sur la montagne, puis qui avait entendu la parole du Père qui dit « Celui est mon Fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection », il dit « On tient pour, au tout début du verset, d'autant plus certain la parole prophétique. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai? D'autant plus certain, supérieur à, d'autant plus sûr, d'autant plus garanti la parole prophétique par rapport à l'expérience entendre la voix du ciel. Il y a des gens, des fois, qui entendent la voix du ciel. Est-ce que c'est carrément mauvais? Non. Mais y a-tu quelque chose de plus sûr que ça? OK. Je me souviens plus à qui je disais ça cette semaine, mais qui me disait qu'il y avait des... C'est le cours de jeudi soir. Où Dieu peut parler à notre cœur. C'est correct. C'est ça, mais je dis, comment tu vérifies ça? Si ça vient vraiment de Dieu? Y a-tu un critère en dessous? Alors, je dis, il faut tout ce que tu crois être la parole de Dieu dans ta vie, il faut que tu la places à la lumière des Écritures. Parce que c'est d'autant plus certain comme ça. Quand j'étais directeur d'école, à un moment donné, il y avait un chauffeur d'autobus qui aimait ça chauffer les autobus. Puis, je pense que son couple n'allait pas tellement bien. Mais il aimait aussi chauffer les handicapés. À autobus. Et une fois, je parlais avec lui, ça m'est arrivé. Un directeur d'école, ça fait rien, hein, ça rentre sa placotte avec les chauffeurs d'autobus. Et je parlais avec lui, puis. non, ça fait quelque chose. non. Mais entre autres, je parlais au chauffeur d'autobus. Puis à un moment donné, il dit Dieu m'appelle à être conducteur d'autobus à Toronto. Hein? J'ai dit oui. Comment ça? Ah, il dit, j'ai eu une vision à Toronto, puis je conduisais des autobus. Puis, il dit, en plus, je conduisais des autobus avec des handicapés, puis il dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie. C'est vraiment un appel de Dieu. Puis, fait que j'ai dit, OK, c'est merveilleux. Comment ça se fait que c'est ça que c'est Dieu? Ah, Dieu me l'a montré. En tout cas, je n'ai pas... J'ai dit, est-ce que tu pars tout seul? Est-ce que tu amènes ta famille? T'as-tu une famille ici pour déménager? Ah, il dit, j'ai ma femme qui est ici, mais il dit, elle, je m'a la laissé ici, puis je m'en vais à Toronto. Moi, Dieu m'appelle là. J'ai dit, tiens, ça fait bizarre, ça. J'ai dit, comment tu sais que c'est la parole de Dieu que t'as entendu? Puis pas un peu tes désirs de cœur? c'est Dieu qui me l'a dit, puis c'est Dieu qui m'envoie, puis c'est Dieu qui va là. Mais j'ai dit, fais attention. Tu dois toujours soumettre, encore une fois, ce que tu penses être la volonté de Dieu, l'appel de Dieu aux Écritures. Puis j'ai dit, il me semble que c'est assez clair dans les Écritures là, de ton couple, de ton foyer, que c'est là ta première place, c'est là que tu dois développer ta vie. Mais on peut rêver à nos convoitises, puis prendre ça pour l'appel de Dieu. Pierre, il dit, on a une expérience formidable. J'ai vu le Seigneur dans la gloire avec la voix du Père. Mais, verset 19, nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique. La parole prophétique est plus importante que la voix de l'expérience. On est juste posé d'observer, là, pas d'écrire. Mais... Verset un autre, où est-ce qu'on a cette notion de ces mots-là? Dans quel verset? 20. Qu'est-ce qu'il nous dit au sujet d'une prophétie là-dedans? Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Eh bien, c'est ça. Alors, faut pas observer. Aucune prophétie de l'Écriture est l'objet d'une interprétation particulière. Faut pas que... Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas interpréter les Écritures? J'ai juste la... Qu'est-ce qu'il veut dire par interprétation particulière? Mais c'est sûr qu'on ne doit pas interpréter tout croche là, les Écritures, on doit bien les interpréter, mais il dit que les Écritures ne peuvent pas avoir une interprétation particulière. Ouais. Ça serait un texte sans contexte, ça, c'est certain. Oui, Céline, dit Christina. C'est pas venu des pensées puis du cœur de l'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Alors, il n'y a aucune prophétie de l'Écriture qui est venue dans le coin de quelqu'un qui a sorti ça de son cœur, qui a dit « Voici ce que Dieu m'appelle, voici ce que Dieu dit », puis c'est sorti de lui-même. C'était une interprétation particulière qui était pas connu de personne, c'est pas éclairé de personne. C'est juste moi j'ai la pensée brillante que Dieu que Dieu dit. Attention. Oui, c'est Christina. Ce serait plus plausible que ça soit poussé par l'esprit, parce que si c'est vraiment l'esprit qui souffle, qui parle, est-ce qu'il va dire des choses tout à fait contradictoires de l'un à l'autre? Non. L'esprit des prophètes, un Corinthien va dire, est soumis aux prophètes. Il y a pas d'interprétation dans le coin, hey, je suis le seul à penser de même, mais c'est ça la bonne affaire, là. C'est ça. Alors, c'est comme ça qu'il y a des gens qui se séparent de tout, parce qu'ils disent c'est ça, puis il n'y a pas d'autre chose, puis je ne peux pas rien entendre, mais je suis le seul qui pense de même. C'est dangereux. Il n'y a pas. Alors, il nous est dit sachez tout d'abord qu'il n'y a aucune prophétie de l'Écriture qui est l'objet d'une interprétation particulière. Et là, il explique au verset 21, comme vous l'avez mentionné, parce que ce n'est pas par une volonté d'homme que les gens ont parlé, mais comment les gens ont-ils parlé? Comment les vrais prophètes ont-ils parlé? C'est poussé par l'esprit que des hommes. Pourquoi des hommes? Un particulier que les prophètes. On a trop de nouveaux gadgets maintenant. Je voulais avoir le rétroprojecteur, puis là, avec un acétate, mais c'est déjà vieux jeu, cette affaire-là. Mais je vais vous le montrer comme ça. Mais des hommes ont été poussés à parler de la part de Dieu. C'est comme le Saint-Esprit a soufflé, a poussé. C'est comme si chacun des prophètes était son petit voilier et le Saint-Esprit les poussait. Et c'est comme le vent de l'Esprit les soufflait. Est-ce que ça les soufflait dans toutes les sortes de directions? Non, puisque ça venait du même Esprit. Les gens ont dit diverses choses, mais ils étaient toujours poussés dans la même direction par le même esprit, par le Saint-Esprit. La prophétie, alors, n'est pas le fruit de la pensée d'une personne isolée, puis c'est le Saint-Esprit qui est à l'origine des prophéties de l'Écriture. OK. Alors, on va voir un petit peu d'interprétation un peu plus tard dans ce passage-là. Tournons au chapitre 2. Et là, on aura des personnes, les faux docteurs. Comment on va étudier plus tard comment on va les caractériser. Mais j'aurais besoin de quelqu'un qui lise, il y a 22 versets, deux personnes pour lire 11 versets chacun. Un à 10, puis après ça, 11 à 17. 1 à 10, chapitre 2, Augustin, tu veux lire? Et versets 11 à 22, une autre personne pourrait lire, Pauline. On y va pour le chapitre 2. On note toute la notion de parole, promesse, prophétie, docteur. Merci. Paul. Un instant, Augustin. Pauline, tu peux continuer?
OK. Chapitre 2, on parle de ses adversaires, de ses faux docteurs. Est-ce qu'on trouve des mots qui ont à faire avec prophète? Il y a une description de leurs caractéristiques, on va le voir un peu plus tard, mais juste les mots d'abord qui touchent prophète, prophétie. Verset 1, qu'est-ce qu'il nous enseigne là-dessus? Qu'est-ce qu'il nous dit au sujet des faux prophètes, faux docteurs? Il y en a parmi nous. Il y a, c'est-à-dire, c'est dans la communauté chrétienne. Tous ceux qui viennent à l'Église, est-ce qu'ils sont nécessairement sauvés? Non. On est ouvert, on accepte la profession de foi, mais on ne peut pas voir les détails du cœur. Et Pierre dit, de la même manière que dans l'Ancien Testament, il y avait dans le peuple d'Israël du faux, il y en aura du faux à l'intérieur de l'Église visible. Il y aura toujours, comme Jésus disait dans sa parabole, du blé et de l'ivraie. Et il a dit, est-ce qu'il faut arracher l'ivraie pendant que ça pousse avec le blé? Non. Attends la fin, puis c'est les anges qui vont faire la différence, ils vont le savoir. Arrachons-nous pas les cheveux l'un l'autre, mais soyons pas dupes non plus. Il y a, dans tous ceux qui confessent le nom de Jésus comme leur sauveur personnel, du vrai, puis il y a de l'ivraie aussi. Il y a des faux. Il y en aura ici, comme il y en a eu dans le passé. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre? D'autres versets. Il n'y a pas beaucoup de ces mots-là dans le chapitre 2, malgré qu'il y a une grande description. Il y a des faux enseignements. Quel verset que c'était, ça? Des faux prophètes qui vont... des paroles trompeuses, OK? Verset 2, j'avais la voix de la vérité. Plusieurs vont suivre ces faux prophètes-là, puis la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mépriser. Il y a des gens qui vont mépriser la foi chrétienne parce qu'ils vont avoir vu des gens qui vivront pas selon, qui se disent à l'intérieur, mais qui évidemment vont faire du tort à l'Évangile. Ça existe encore, ça? Évidemment. D'autres, un peu plus loin, il y avait un autre mot, prophète. J'ai trouvé le mot prophète au verset 16. Il parlait de Balaam. Balaam qui était un exemple de faux prophète. Un âne a arrêté la démence d'un prophète. D'un faux, bien entendu, un faux prophète. Ça va? Mais on va regarder juste dans quelques instants les caractéristiques des faux prophètes, puis on va regarder beaucoup dans ces versets-là. Chapitre 3, on a 18 versets. On peut lire, une personne peut lire les 10 premiers, puis l'autre les 8 derniers. 3, 1 à 10, David, et puis 11 à 18. Qui peut lire 11 à 18? Oui, Christina. 3, 1 à 10, David. Amen. OK, chapitre 3. Est-ce qu'on a de ces mots qui nous parlent de prophétie, prophète, parole, promesse, écriture? Verset 2. Alors, il veut qu'on se souvienne des choses annoncées par les saints prophètes et puis qui sont enseignées aujourd'hui par, par les apôtres du Nouveau Testament, les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont le même message, il y a un message qui continue avec ceux des apôtres du Nouveau Testament. Il veut qu'on se souvienne. D'autres endroits où on a, au lieu des faux prophètes, dans le chapitre 3, et, au verset 3, il les identifie comme des moqueurs. Alors, il y a les faux prophètes dans l'Église, mais il y a des moqueurs à l'extérieur de l'Église. Alors là, c'est un autre groupe de personnes, c'est des moqueurs qui disent différentes choses. Et qu'est-ce que l'on a trouvé de plus de mots de prophétie plus tard? La parole de Dieu était à l'œuvre, chapitre verset 5, verset 7. Par la parole de Dieu, une terre était tirée de l'eau. Puis au verset 7, par la même parole, les cieux d'à présent sont gardés. Des notions de promesses, d'affirmation des promesses de Dieu, des Écritures, de qu'est-ce que Dieu dit par les prophètes. Un autre mot avec prophétie, un peu plus loin dans chapitre 3. J'ai noté le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans sa promesse. La promesse du Seigneur va s'accomplir. Et finalement, j'ai trouvé d'autres. Verset 10. OK, le jour du Seigneur, et c'est un élément de la prophétie. Le jour, dans le futur, le jour du Seigneur va venir. Bien qu'on n'ait pas le mot de prophète ou de lettre ou de prophétiser ou de docteur dedans. Verset 13. OK, ça s'en vient. Mais encore, c'est le contenu de la prophétie plutôt que le mot prophétie. Intéressant aussi. 13, soit dit, quelqu'un? Encore une autre promesse. C'est encore beaucoup d'éléments de prophétie. J'avais le mot « lettre » au verset 16 qui dit, Paul nous écrit dans ses lettres, il a écrit des lettres inspirées comme les autres Écritures au verset 16. C'est intéressant que Pierre, il a lu les lettres de Paul, puis il dit que les lettres de Paul sont aussi inspirées que les autres Écritures. Il croyait déjà, Pierre, à l'inspiration des écrits de Paul. Intéressant. Ceci étant dit, allons à l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, là? Notre objectif, c'est de regarder la prophétie divine versus la fausse prophétie des faux docteurs pour en tirer des applications. Chapitre 1, verset 19 à 21. Le côté positif de la prophétie divine. On a commencé à le dire tantôt que la parole, elle était plus certaine que l'expérience. Et dit que à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. J'aime ça, cette phrase-là. Qu'est-ce que ça vous dit de la parole? Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Elle éclaire la parole. Est-ce qu'il y a un verset qui va avec ça dans l'Ancien Testament, cette notion? C'est ta parole qui est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, psaume 119, 105. Il nous dit que comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. J'ai reçu un petit livret que ça s'appelle « L'étoile du matin ». C'est quoi ça, l'étoile du matin? Brille dans vos cœurs. Vous avez la parole qui vous aide à marcher jour à jour, jusqu'après jour, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est très poétique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à ce qu'on soit éclairé complètement. Quand est-ce qu'on va être éclairé jusqu'à ce que l'étoile du matin réfère à Jésus, est l'étoile du matin. Apocalypse me dit la même chose. C'est lui l'étoile du matin. Les gens du premier siècle, ils considéraient Vénus l'étoile du matin parce que c'était la première étoile qu'ils voyaient au départ. Et c'est venu à être dans le Nouveau Testament, non pas Vénus, mais Jésus. Jésus est cette étoile-là qui va lever et qui va nous mettre, il va nous mettre tout clair. Regardez 1 Corinthiens 13, 12. 1 Corinthiens 13, 12. Paul, lorsqu'il parle au sujet de la connaissance, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas encore trop, là. 1 Corinthiens 13, 12, il dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Ayons la parole de Dieu devant nous, qui est une lumière sur notre sentier, jusqu'à temps qu'on comprenne complètement puis que la lumière se fasse pleine par la venue de Jésus-Christ qui va revenir, qui est l'étoile du matin. Qu'est-ce qu'il nous mentionne aussi au verset... on a expliqué un peu la notion du verset 20. C'est pas objet d'une interprétation particulière. Qui est l'auteur, finalement, des Écritures? L'Esprit de Dieu. Dieu, par son Esprit, influence, inspire des auteurs. Les auteurs sont les messagers. Alors, on doit lire les Écritures en demandant à Dieu d'éclairer nos pensées parce que c'est lui qui en est l'auteur. Est-ce que ça veut dire que les auteurs qui écrivaient les Écritures, ils ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'ils écrivaient? Ils savaient un peu. Ils ne voyaient pas toute la portée, mais il y avait un message à communiquer. Puis dans le message qu'ils communiquaient, avec leurs mots, avec leurs émotions, avec leurs perceptions, l'Esprit de Dieu les guidait à travers pour s'assurer que qu'est-ce qui était écrit était la vérité. De sorte que la parole de Dieu est autant parole d'homme que parole de Dieu. L'un n'est pas dissocié. Les auteurs n'étaient pas des écrivains mécaniques qui ne savaient pas qu'est-ce qui se passait là. Mais ils étaient conscients qu'ils écrivaient la parole de Dieu. Je lisais après-midi que 3800 fois dans l'Ancien Testament, c'est écrit quelque chose comme « Ainsi parle l'Éternel, Dieu dit, alors l'Éternel parla ». 3800 fois dans l'Ancien Testament. Ça donne une idée comment les prophètes qui écrivaient, est-ce qu'ils avaient l'impression de dire leur message à eux? Ils amenaient toujours le message de l'Éternel. J'arrive pas à comprendre vraiment là. C'est ça. Évidemment, la parole. Oui, c'est ça. C'est la parole de Dieu qui éclaire nos cœurs, c'est ça. Ouais. L'être humain, il se sent coupable souvent. Il y a de la culpabilité et il y a besoin de l'enseignement de la parole de Dieu pour montrer la cause de sa culpabilité, puis comment s'en sortir de ce problème-là, des Écritures. Et la parole de Dieu est le message de Dieu pour dire aux hommes comment marcher. Et les prophètes de l'Ancien Testament, c'est ce message-là qu'apportaient, le message de la personne de Dieu, 3800 fois, comme je disais, dans l'Ancien Testament, ainsi par l'Éternel. Ça, c'est le bon côté de la prophétie, c'est Dieu qui parle aux hommes, puis on a besoin de bien entendre et de marcher à la lumière des Écritures. Maintenant, au chapitre 2, il y aura des faux prophètes. Et qu'est-ce qu'il va avoir comme caractéristique, les faux prophètes? Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 1 au sujet des faux prophètes? OK. Alors, un des contenus du faux prophète, du contenu du message des faux prophètes, c'est la rédemption. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix pour nous? Et la manière de fonctionner, verset 1, ils introduisent sournoisement, moi j'ai dans ma traduction, sournoisement des sectes pernicieuses. Sais-tu at large, bien ouvert à tous, c'est toujours sournoisement l'erreur. Et en reniant souvent la portée de la rédemption de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ. Et comme je dis, ça détourne des gens de la vérité. Et là, les gens du monde se mettent à calomnier la parole de Dieu parce que des gens se sont détournés de la foi. Qu'est-ce qu'ils font de plus au verset 3? Les faux docteurs. Comment est-ce qu'on peut reconnaître les faux docteurs? Par cupidité, ils exploitent au moyen de paroles trompeuses. Ils ont le désir du gain, cupidité. Exploiter les croyants. Même chose avec versets 13 et 14. Il dit, ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils influencent, ils exploitent des croyants qui sont mal affermis. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre de ces faux prophètes? Verset 10, il nous est dit qu'ils sont audacieux, arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. On avait parlé de ça la semaine passée, les gloires. C'est quoi les gloires? Il y a un livre dans le Nouveau Testament qui est parallèle à 2 Pierre, le livre de Jude. Si vous lisez le livre de Jude ce soir, vous verriez que ça se ressemble beaucoup, 2 Pierre et Jude, sauf que Jude est beaucoup plus court. Tournez dans Jude, versets 8 à 10. Jude, c'est le dernier livre avant l'Apocalypse. Les gloires sont des anges. Il dit, audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force. Mais c'est plus clair encore dans Jude, le verset 8. Injurier les gloires. Et verset 9, « Or l'archange Michael, encore, Michel, un ange, c'est une de ces gloires-là, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. » Les faux prophètes, ils parlent, ils sont arrogants, ils sont injurieux face aux anges, bons comme mauvais, et tandis que les anges eux-mêmes font attention entre les catégories d'anges de s'injurier. Il dit au verset 11 dans 2 Pierre 2, « Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles, contre les gloires des jugements injurieux devant le Seigneur. » Les faux prophètes sont arrogants face aux choses invisibles, face aux gloires, face aux anges. Les versets 12 à 14, on a d'autres informations des faux prophètes. Qu'est-ce qui nous est dit de ceux-là là, dans les versets? Ils s'abandonnent à leur penchant naturel. Ils sont des hommes tarés, souillés, ils se délèquent, ils aiment leur tromperie. Ils utilisent les gens, ils font bonne chair avec vous. Ils sont insatiables de péché, adultères, ils sont aussi impurs, immoraux. Ils sont égarés. C'est dur pour les paroles accordées aux faux prophètes. Ça serait dur d'identifier comme ça. Mais une chose que je comprends clairement, en tout cas, c'est qu'il y a toujours un lien entre ce que je professe et ce que je vis, entre ma théologie et ma pratique. Si j'ai une bonne connaissance de Dieu, ça devrait se refléter dans les vertus que je vis. Si je crois à des hérésies, tôt ou tard, ça va se manifester dans ma conduite. Oui, Naomi?
Mais, ouais, je regarde le verset 14 du chapitre 2. Ils amorcent les âmes mal affermies. Alors, les gens qui sont mal affermis sont des proies faciles. Aussi, je regarde le verset 19. Il dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes. Ça dépend, le contenu de leur promesse. Regardez ce que je vous promets, regardez pas comment je vis. Et alors qu'eux-mêmes, ils sont esclaves de ce qui a triomphé d'eux, ils mentionnent. Ils sont de grands parleurs, des petits faiseurs. Verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par la convoitise de la chair. Ceux qui viennent juste d'échapper, il y a des gens qui viennent juste d'échapper du monde, qui viennent dans l'Église, qui sont pas encore fermes, et ces nouveaux croyants-là, ils attrapent par des beaux grands discours enflés de vanité, enflés de convoitise, puis ils leur promettent la liberté, puis ils attirent avec eux des gens qui se détournent de la vérité. Les croyants affermis devraient voir au-delà du parler à travers la conduite et trouver dans la conduite l'hérésie. Ça va toujours se lier, l'hérésie. Ce sont des apostats qui nous dit au verset 20 à 22, des apostats qui n'ont pas l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres, là? La bonne prophétie, la fausse prophétie. J'ai quelques questions à la base. Quelle attitude est-ce que j'ai face à la prophétie? Est-ce que la prophétie, pour moi, c'est juste quelque chose... De la présentation de qu'est-ce qui va arriver du futur? Qu'est-ce que c'est la prophétie? L'enseignement de la parole. Comme il dit Paul, il vous a écrit des choses. Je veux vous rappeler avant de partir des choses. La prophétie, c'est aussi le message de Dieu. Dans le message de Dieu, il y a des choses pour aujourd'hui comme il y a des choses pour le futur. Mais la prophétie, c'est l'enseignement de la parole. J'aime bien le dimanche soir quand on partage les uns les autres. Ça, c'est des prophéties. Quand vous dites, j'ai lu dans les Écritures, j'ai retenu ce principe-là et je vous le partage, ça, ce sont des prophètes qui parlent comme ça. Et les prophètes, c'est pas juste des gens flyés qui vont parler de ce qui arrive dans le futur. C'est des gens qui présentent les principes de la parole de Dieu, pour aujourd'hui comme pour le futur. Comment est-ce qu'on peut exercer le discernement face à la prophétie? Savoir si c'est une bonne prophétie, mauvaise prophétie. Comment est-ce qu'on peut exercer le discernement? Pardon? En s'appuyant sur la parole, comme on a vu. Ce n'est pas une interprétation particulière, mais c'est soufflé de l'esprit. En m'appuyant sur la parole, comme j'ai dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. J'ai besoin de connaître la parole pour pouvoir discerner la vérité dans la prophétie ou l'erreur. Et encore une fois, est-ce que moi je crois comme il faut? Si je crois tout croche, ma vie va en découler. Ma vie va en découler. Est-ce que ma conduite correspond à ma profession? Et quel est le meilleur antidote pour des faux enseignements? Comment est-ce que je peux? La parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Comment vous avez déjà entendu l'exemple de comment les gens voient des faux billets aujourd'hui? Est-ce qu'ils étudient tous les faux billets? Ça serait bien trop compliqué. Ils en sortent tous les jours des nouveaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient beaucoup le vrai billet. Tous les détails, toutes les caractéristiques. Alors, tout ce qui ne fit pas avec le vrai, bien là, on peut le déclarer, c'est faux. S'il fallait étudier tout le faux... On n'aurait même pas encore la base pour savoir c'est quoi le vrai. Il faut étudier le vrai. Comment réagir et tenir ferme? Tournez dans Jude, comme j'ai mentionné, on va terminer avec ça. Pierre, il dit dans 2 Pierre 3, 18, comment est-ce que je peux réagir aux faux prophètes? Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Jude, il va nous donner... des détails. Jude, au verset 20.
c'est ça, 2 Pierre, il finit 2 Pierre 3:18. Il nous dit un petit verset en terminant, croissez dans la grâce et dans la connaissance, c'est comme ça que vous allez pouvoir tenir ferme. Jude, il va être un peu plus long à expliquer, mais des belles choses à partir du verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour tenir ferme? Prier sous l'impulsion du Saint-Esprit, selon ce que le Saint-Esprit nous dirige, et aussi se maintenir dans l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça? Se maintenir dans l'amour de Dieu. Certainement la communion fraternelle, certainement la goûter, désirer, penser à l'amour de Dieu pour nous. Et verset 20, au tout départ, il dit qu'on a besoin de nous édifier sur notre très sainte foi. Ça parle de quoi? Quelle foi que c'est, ça? La foi chrétienne. Sur les principes, sur les écritures que vous avez. Édifiez-vous vous-même par l'utilisation des écritures, par la foi chrétienne. Priez dans le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Attendez le retour du Seigneur. Ça, c'est pour que ça continue à bien aller. Et ceux qui marchent tout croche, verset 22, reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Il y a des gens qui s'éloignent, puis il faut pas juste dire « Ah, oh, tu t'éloignes, puis too bad pour toi. » Qu'est-ce qu'il nous dit de faire ici, là? Courir après eux autres, sortez-les du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ceux qui sont des apostats, qui sont détachés, ben ayons pitié et mélangez de crainte. On ne voudra pas s'associer aux faux prophètes, aux apostats. Et ça, c'est ce qu'on peut faire. Entre nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens dans la difficulté, les rattraper? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les apostats? Et la promesse, finalement, c'est que c'est Dieu qui va nous aider à persévérer dans la grâce. Verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les siècles, et maintenant et dans tous les siècles. Il y a aussi la part de Dieu. Dieu peut nous préserver de toute chute. On a besoin de lui. Vraie prophétie, fausse prophétie, on a besoin de marcher selon les Écritures pour être capable d'identifier la fausse, le faux, être capable de le confronter, puis se maintenir nous-mêmes dans l'amour de Dieu, puis compter sur Dieu pour qu'il nous préserve. Tenons ferme avec nos Écritures, avec la prophétie divine. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour les avertissements de Pierre. On ne fait pas toujours attention à des mauvaises vision de ta parole parmi nous. Et on a besoin, Seigneur, de s'encourager avec les Écritures, que ces Écritures-là continuent d'être une lumière sur notre sentier. Et Seigneur, on a besoin aussi d'encourager, d'arracher ceux qui les nouveaux chrétiens qui sont facilement influençables par toutes sortes de faussetés. Seigneur, on a besoin des invités à plonger leur regard dans ta parole afin qu'ils deviennent fermes dans la foi. Et Seigneur, entre nous, on a besoin de se maintenir aussi dans l'amour, être sensible à l'Esprit de Dieu. Et Seigneur Dieu, être capable aussi d'identifier l'hérésie, la fausseté. Et Seigneur Dieu, confronter les contradicteurs. Afin, Seigneur, que nous puissions conserver une foi qui est pure, qui va être transmise à la prochaine génération sans fausseté, sans fable. Et Seigneur, merci, parce que ta promesse, c'est que c'est toi aussi qui vas nous préserver de toute chute. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, on a besoin de toi pour continuer à marcher dans la vérité. Et on te prie ces choses encore au nom de Jésus. Amen.